Strip sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée au fanzine, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Ce soir, notre invitée malheureusement nous a planté. On devait parler avec elle des conditions de travail des auteurs et des autrices des bandes dessinées. Mais bon, tant pis, on va faire cette émission sans invité. Alors, ce soir, on est là avec Nandi, Julia et Pierre-Paul de la réalisation. On commence par l'édito. J'écris, j'exclame, je braille. Confinez-moi, putain. Depuis l'apparition du coronavirus en décembre dernier, 114 151 cas d'infection ont été recensés dans 105 pays. Aujourd'hui, jour de notre enregistrement, l'Italie est à l'arrêt. Mes potes partagent sur Facebook des statuts « On l'arrête ensemble, moi je reste chez moi, stop Covid-19 ». En France, la vie continue. Un cas dans une école parisienne, pas de soucis, on ferme juste une classe. Pas de savon dans les toilettes, un tonchon commun pour 300 élèves. Oui, c'est chouette les partages. Nos vieux vont clamser, mais on s'en fout. Les hôpitaux vont bien gérer, bien sûr. Ça fait des années qu'on les écrase, les hôpitaux publics, mais ils vont bien gérer. Sans sous, sans personnel, mais ils vont gérer parce qu'ils sont forts, nos médecins. Mon cul. En Italie, ils n'ont plus de machines disponibles dans les hôpitaux pour les gens en fin de vie. Les médecins doivent choisir qui sauver. On dirait un état de guerre. Les prisonniers d'Italie mettent le feu dans les prisons. Ils réclament leur visite, des masques, des conditions dignes. 50 sont enfouis dans la prison de Foggia. Mais ici, la vie continue. Ces putains de virus fait éclater nos sociétés hyperlibérales. Les bourses vont exploser. Ouais, c'est chouette. Il faut arrêter. Confinez-moi. Je ne veux plus d'électricité. Je ne veux plus voyager, consommer. Laissez-moi, enfermez-moi. Je veux dormir, lire, boire des tisanes, manger du chocolat, dessiner. Plus de mails, tout le monde à l'arrêt. On prend le temps de réfléchir, le temps de nous arrêter. Parce que de toute façon, maintenant, nous n'avons pas le temps, nous n'avons le temps de rien. Et oui, les gouvernements, il faut l'arrêter l'économie. Quelque temps, vous avez déjà commencé vos cadeaux aux entreprises, vous allez continuer. Mais là, il faut s'arrêter et dormir un gros coup pour recommencer autrement ou pas recommencer du tout. Alors, et maintenant, après cet édito consacré au thème du moment, le coronavirus, on passe aux chroniques. Donc, on commence avec la chronique des Nagasaki. Nagasaki et Nandi, c'est toi qui commences. Donc, Nagasaki d'Agnès Ostache, publié par Le Lézard Noir en août 2019.
Agnès Ostache signe aux éditions du Lézard Noir Nagasaki. Belle œuvre au caractère à la fois naïf, intense et sociologique. Nagasaki fait l'effet d'une bombe feutrée. Tout d'abord, un chouïa de contexte. Nagasaki, l'adaptation de deux faits. Un fait divers et un roman qui a été fait. Voilà. Le fait divers, précité, est le suivant. Au Japon, en 2008, un célibataire découvre qu'une femme vivait chez lui depuis un an et fait arrêter celle-ci. Le roman, lui, est le suivant. Nagasaki, aussi, un roman d'Éric Faye ayant ni plus ni moins reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 2010 et que Agnès Ostache réinterprète en roman graphique cette fois. Une facilité ? Non. Pas franchement, et un défi plutôt périlleux, mais à vaincre sans péril, en criant sans gloire. Donc, voici l'histoire qui nous préoccupe ce soir. Un célibataire, ingénieur en météorologie, dont la vie est rodée par une monotonie sûre, voit celle-ci se pourfendre. En effet, en son absence, les objets semblent avoir été déplacés. La mesure précise et quotidienne avec laquelle il boit, naturellement, sa gorgée de jus de fruits n'est pas la même ce jour-là. A-t-il changé ? Sa personne lui échappe-t-elle ? Ses nuits se troublent, sa vision se trouble, son caractère se met à se craqueler, des émotions paraissent enfin en spasme d'angoisse qui le grise presque. Tout doute alors chez lui. Frôlant le malaise, se demandant qui le hante intérieurement ou physiquement dans sa maison, il se résout à croire que le problème, ce n'est pas lui, mais cet autre qui déambulerait chez lui. Aux grands mots, les grands moyens. Face à ce parasite, une webcam. Par celle-ci, il verra de son bureau ce qui se trame en son absence. Alors, il grésille de sa traque. Le problème ne peut être qu'extérieur à lui. En quelques mots, il y a quelqu'un. La vision de son chez-soi habité par un parasite avait suscité une telle haine qu'il se résout à agir brutalement, mais l'espace d'un instant, constater que son intérieur était en vie, c'est un peu retrouver son intérieur, son fort intérieur, mais le mal est fait. L'âme de la maison doit disparaître, la folle du logis et tout le bazar. Cette histoire, au réalisme à la fois naïf et fantastique par Agnès Eustache, est une perle rare et sobre, une bombe feutrée comme je vous le disais, mais quel étonnement de prime abord que Nagasaki paraisse chez la maison d'édition Les Arts Noirs. En effet, celle-ci est spécialisée dans le romantisme japonais et décadent depuis sa création en 2004. Or, ici, à part une histoire se déroulant au Japon, nous lisons une œuvre française adaptée d'un roman français. Mais c'est avec brio que ce partage d'espace est fait et que cette œuvre a trouvé place au Lézard Noir. C'est un titre qui marque un tournant français vers le dessin japonais. Ensuite, et dans la continuité, je peux vous dire que la tonalité reste teintée de romantisme noir, de gothique, malgré les couleurs pastel et un style faussement naïf. En effet, un homme se trouve hanté. Hanté par ses pensées, qu'il ne laisse pas même affleurer en général, et dont il craint que les sursauts ne le réveillent la nuit en hurlant. Hanté par un monde qui peut être animé de mauvaises intentions et qu'il n'avait pour coutume que d'observer en ingénieur météorologue. Hanté peut-être par un ennemi physique. Le double est là. Le miroir ment. Cette crainte de compagnie, de mauvaise compagnie, mauvaise car incompréhensible, hante le texte. Il y a donc aussi un contexte qui hante, un monde qui hante, le monde de 2008, on le connaît, la crise quoi, le monde qui prend un tour incompréhensible, on vire tout le monde et aussi concernant notre cher monsieur Shimura-san, on vire des météorologues, comme si la météo problématique allait un jour prendre fin. Des pauvres gens aussi hantent les habitations des autres avec le respect des spectres. Le tour de force de cette œuvre réside en ce que cette veine de romantisme noir, oscillant entre le grotesque, le fantastique, le lyrique, se fait par un style qui, lui, beaucoup plus simple, beaucoup plus lointain de tout ça. En effet, Agnès Eustache, ancienne architecte d'intérieur, traite de manière sobre absolument tout. Les paysages semblent presque solides, des aplats simples, tantôt sans perspective, ou vraiment comme des espèces d'amas de l'univers. Mais néanmoins, notre personnage les animera par une pensée un peu étrange, un peu comme la mienne. Ici, un réalisme naïf rencontre enfin un réalisme fantastique, qui se fait expressif même. Alors, si votre esprit peut être brouillé et hanté en pleine nuit, quand les cigales, à votre impression, bien sûr, se mettent à tonner, et qu'une cigale, à votre impression toujours, même si elle reste étrange, en devient comme 5000 aux proportions affolantes, et que votre pleine page intérieure bruisse d'un incompréhensible, ou si ce n'est pas le cas, lire cette expérience graphique vous subjuguera. En effet, tout ça sera représenté. Si vous avez aussi envie de lancer des imprécations en pleine nuit, malgré les constellations suspendues dans le ciel, eh bien, vous y trouverez un fort joli portrait. Cette œuvre, faussement naïve, vibrante, au rire fait de grotesque souvent, frôle le surréalisme et le fantastique qui est toujours là à fleurer. Le problème de la solitude en société, des problèmes politiques y sont. Le style, enfin, y est remarquable. Et s'il n'a pas été primé au Festival international de la BD d'Angoulême, eh bien, faisons un salon des refusés et laissons entrer cette œuvre et laissons-la nous habiter un peu. La question de l'accueil y est posée. Faisons-nous réponse à cette question. Ah, cher Shimura-san, qui l'eût cru que votre solitude hébergerait une vie en plus de la vôtre ? Fin.
Merci, Nandi. Mais que répondre à ça, c'est tellement juste et tellement
parle-moi
beau.
Du formel, s'il te plaît. Parce que moi, je suis un peu... Voilà.
Bon, j'ai évidemment été touchée par le fond, mais la forme aussi m'a beaucoup plu. Hein. Tu parlais d'aplats de couleurs. C'est vrai qu'il y a un dessin un peu comme fait à la peinture à l'eau de cette BD Nagasaki qui dégage une impression de mélancolie et de douceur propre à l'enfance. Mmh. Alors que cette BD parle d'un homme âgé en proie à une solitude. Ça parle aussi de destin contrarié, d'espoir déçu. Et il y a quelque chose pour moi dans l'ambiance du Orla dans le début de l'ouvrage, d'un homme qui tourne en rond en rentrant du travail et qui sent une présence, inquiétante ou non, qui trouble l'ennui tranquille de sa routine de vieux célibataire. Et ça tranche beaucoup avec la forme et je trouve que c'est ce qui est particulièrement réussi.
Exactement.
Bon, pour le dire vite, hein, simplement, tout m'a plu dans cette BD. Du fond, parti d'un fait divers bien réel qui s'est déroulé au Japon, à la forme, mise en scène comme au théâtre, didascalie à la pluie. Je vous raconte pas le twist de fin, mais pour une histoire vraie, elle n'en est pas pour autant attendue. Comme quoi, le réel a de quoi en réserve. Mais encore, fallait-il habiller les faits avec intelligence. Et c'est ce que fait Agnès Eustache en adaptant le monologue intérieur de son protagoniste, d'après le roman d'Eric Faye, hein, je le rappelle. Mais elle a toute sa part de créativité parce qu'il y a un choix des plans cinématographiques qui a quelque chose du film hitchcockien. toujours à la peinture à l'eau en couleur. Hein. Il faut s'imaginer quand même un film Hitchcockien en couleur, des plans de films Hitchcockiens donc, qui coupent les personnages à moitié, les visualisent de manière surplombante ou en contre-plongée vertigineuse, qui s'arrêtent sur un détail, une main, une mouche, des chaussures, l'horloge, et contrastent avec les dessins en pleine page. Scènes de campagne japonaise de nuit, d'anonymes sous la pluie dans la ville, d'intérieurs cloisonnés. Il y a quelque chose de la latence dans cette BD qui émeut, qui serre le cœur et qui donne envie de vivre plus fort. Je pense que ça nous a plu à toutes les deux, vraiment. On a adoré, on a parlé rapidement.
Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment ce décalage en fait, qui est assez étonnant et qui permet vraiment de s'emparer d'une manière plutôt ambiguë de tout ça. En fait. Il y a beaucoup de tendresse là-dedans, alors que c'est pourtant plutôt dur. La réaction du personnage est plutôt dure, on est dans un contexte plutôt dur et on a tout le temps des espèces de visions assez étranges comme ça qui percent la page. Mais néanmoins, il y a vraiment une attention plutôt, plutôt touchante et qui tranche, on ne s'attend pas à ça. Mais il y a du grotesque aussi, en fait. Ça qui est drôle, c'est qu'il y a des moments drôles, je trouve.
Ouais, il y a vraiment des moments marrants.
Il est ridicule parfois.
Oh oui, complètement, il y a un petit côté.
Avec son jus de fruits. Lisez-le.
Dans sa peur.
Enfin, voilà.
Bon voilà, donc lisez-le.
Nagasaki, c'est de la bombe.
Est-ce que vous pourriez nous lire extrait ?
Première case, pleine nuit, la lune.
L'activation de ce petit stratagème ne pourrait se faire que de mon lieu de travail, le lendemain.
Il déplie lentement son lit.
Agir me rassurait, mais j'en devenais impatient et pour tout dire, un peu lunaire.
Une cigale traîne sur le sol, il s'allonge et prend un magazine.
J'ai ouvert la revue à laquelle je suis abonnée et que d'ordinaire je ne lis jamais.
Il regarde son magazine plus précisément.
Page 37. Quel bout en train. Quel imbécile. Tanabe, le doyen de l'humanité, assure être arrivé à l'orée de ses 113 ans en ne boulotant que des légumes et des gambasses frites de temps en temps pour son plaisir.
Il est dans son lit, se tourne.
Il en mangeait d'ailleurs de moins en moins car la cuisine à l'huile ne lui réussissait pas.
Mais il se retourne aussi.
Pauvre Tanabe, bientôt tu seras accueilli au Nirvana et tout ira mieux, tu verras. Ils ont installé à l'entrée un stand de gambas frites, où tu te goinfras à l'œil.
À nouveau des plans sur la nuit et sur la lune.
En douille. Vous croyez dès lors que vous allez diluer votre moi et tous les sédiments qu'il charrie ? Amertume, soucis, regrets ou remords, jalousie, dans un sommeil de bébé ?
Or, la nuit s'engage plutôt mal.
Les cigales crissent.
Et recrissent.
Les harpies ivres obsédantes.
Les voilà qui entrent à la queue leu-leu dans votre tête.
Par une oreille et font le tour de votre crâne.
Une violente averse les disperse tout de même avant l'aube, comme les manifestants chassés par les canons à eau aux infos de la NKH.
C'est à cause de toi, l'intrus, que je ne dors pas, que j'aurai un excellent mat de tête tout à l'heure.
On le voit se tenant comme dans une espèce de maison sous les constellations.
Mais tu ne peux rien pour attendre. Bientôt ce sera ta fête.
Scène 4. Un jour, il ne se passe plus rien. La corde du destin d'avoir été trop tendue a cassé net. Rien plus n'arrive. L'onde de choc de ta naissance est si loin désormais, oh, si loin. C'est la vie moderne. Entre échec et réussite s'étend ton existence, entre gel et montée de sel.
Fuck.
premier morceau de la soirée, Pas des fruits du groupe Chimia.
Strip sismique.
Et on passe maintenant à la deuxième chronique de la soirée. Nous allons vous parler des Michel de Pierre Morel, publié par l'employé des mois. Michel est de retour. Il y a donc actuellement 3 volumes, 3 perles, 3 pépites. Michel, Michel et les temps modernes, et les derniers, Michel et les grands schismes, publié mars 2020. Pour moi, c'est une découverte. Pierre Morel, l'auteur, était pour moi un inconnu jusqu'ici. Surtout parce qu'a priori, en voyant son dessin, ça ne me donnait pas trop envie. Les titres non plus, Michel. Mais bon, quand j'ai vu la dernière couverture, j'étais intriguée. C'est une couverture rigide, il y a du orange, du gris, du noir et beaucoup de flics avec leur jolie flèche ball. Michel est au centre, par terre, un CRS pépère lui donne un coup des pieds. Michel a 40 ans, il est un peu grassouillé et fait du reportage audio. C'est un contemporain, il a la chance de partager avec nous les bien-être de notre start-up nation. Michel peut s'énerver facilement. Surtout quand quelqu'un lui demande encore pour l'énième fois de charger une application pour obtenir un service simple. Franchement, c'est compliqué d'en parler parce que j'adorais cette BD en 3 volumes qui résume aussi bien l'absurdité dans laquelle on vit. L'obsession de tout optimiser, les temps, les sous, les gens. Michel est souvent sans un rond, il galère à vendre ses podcasts, il aimerait vivre de sa passion, faire du son, mais finalement c'est compliqué, il se retrouve souvent à faire des boulots d'intérimaire, des boulots de merde, des boulots pour manger. Et son sous, tout est compliqué, même se faire soigner. C'est pour ça qu'il se retrouve dans les volumes 2, chez un vétérinaire pour réparer ses crocs. Michel aime bien papoter avec ses copains, il a des bons copains, on les voit grandir, vieillir avec lui, on les retrouve dans les 3 tomes. Il prend de l'épaisseur, on apprend à les connaître et on s'y attache. C'est un peu comme les copains des Zéro Calcaire, on les retrouve dans tous ses volumes. Je trouve ça hyper chouette. Michel a des principes, des convictions politiques, mais on ne tombe jamais dans la moraline à 2 balles. C'est toujours drôle et fin. Il va en manif, rencontre des gens, il discute. Et oui, il aime bien ça. Michel adore papoter. On apprend des choses. Dans le deuxième volume, par exemple, rencontre Mario. Et Mario nous raconte des années de plomb en Italie. Pour ce qui concerne les dessins, c'est du noir et blanc. Les traits de Pierre Morel sont simples, rapides, nerveux, quelquefois un peu caricatural. C'était pour ça qu'au début, j'étais un peu méfiante. Mais le découpage des images est très serré et donne la priorité à la narration qui passe souvent par les dessins. Il y a du rythme. On n'a jamais envie de terminer. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Tu en as pensé quoi, toi, Pierre-Paul ?
Ben, en fait, je trouve qu'on est un peu d'accord, en fait. J'ai lu également les 3 tomes de Michel, donc Les Temps modernes, Les âmes farouches et Le grand schisme. Et en fait, j'ai vraiment aimé la véracité qu'on pouvait trouver dans ces livres. On n'est pas sur un délire, comme tu dis, moralisateur. On est vraiment sur une vérité qu'on vit à chaque instant. Bah, d'abord, il faut prévenir, hein, si vous avez des convictions politiques d'une tache d'huile, cette BD n'est pas pour vous. Si vous ne pouvez pas comprendre les craintes, l'oppression de notre monde, les risques de vivre lorsqu'on a un homme de 40 ans dans un monde sans constance, si ce n'est l'auto-entreprise de son soi, ou du moins de son moi. Et en réalité, ce n'est pas un risque. Michel n'est pas pour vous, point. Vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que c'est que la somme de petits boulots mal payés, ça n'apporte rien d'autre que du malaise, que des rencontres abstraites, que des douleurs au dos et des désillusions. Michel, lui, on le comprend. Et lui-même le comprend. Le comprend et on le comprend parce que c'est sa vie et c'est notre vie, en fait. Hein. Enfin, peut-être pas tout. Et est-ce par choix ? Je sais pas. Je sais pas si Michel le comprend par choix. Parce que je le connais pas assez. Hein. 3 tomes, c'est pas assez pour se faire une opinion. Et j'ai bien envie de partager quelques bières avec lui, hein, être son pote, comme tu dis, écouter son histoire, le pourquoi de ses choix. Bah, après, je doute qu'il se livre aussi facilement dans un bar. Puis même je doute que si on est ennemi, il ose se livrer. Hein. On revient, Michel, c'est un homme de 40 ans, il semble en faire beaucoup plus. Hein. Il est has-been, il est dépassé, il n'a pas les bails. Non mais vous les entendez
donc,
là
tu, attends.
Non, vous les entendez là? Il n'a pas les bails, has-been. Vous les reconnaissez? Ça, c'est les sirènes du capitalisme. C'est la pression de notre monde qui souhaite que chacun soit plus performant que l'autre. C'est l'auto-exploitation. C'est l'ennemi, ça. Michel
hashtag
le sait.
Je suis Michel.
Ben ouais, j'y ai pensé, je ne l'ai pas écrit. Michel le sait, il le sent, tout comme je sais que vous le sentez vous aussi. Ben ouais, ça j'ai bien senti. Non, il n'est pas dépassé. Il en a juste marre de ce monde pourri. Il en a marre du délire orwellien travestissant les mots, leur faisant perdre leur sens. Non, Michel n'aime pas le crowdfunding, n'aime pas la Startup Nation, n'aime pas les manifestations organisées, les trottinettes électriques. Ok, je reconnais, c'est un peu en désordre. Mais pour lui, la société doit changer entièrement et depuis un moment, on le prend pour un con. C'est abusé.
Et toi, Julia, tu en penses quoi ?
Non, mais attends, Michel, il est loin d'être un con.
T'as pas fini, mais cette pause était très longue.
Il se laisse un peu aller.
Vas-y, vas-y,
il mange un peu trop, il galère énormément pour vivre, il s'occupe de ses vieux, mais il bouillonne intérieurement. Pour canaliser cette rage, il la dirige vers des reportages radio. C'était pas simplement sa passion, c'est le pourquoi il vit, sa façon d'exister, de s'exprimer. Donc avec son zoom, il enregistre le monde. Et là, tu vois, je peux pas m'empêcher de repenser à Job et Lisle dans Monsieur Malocène de Pénac. Je sais pas si vous l'avez lu. Et moi, c'est assez marrant parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas lu. À l'époque, j'habitais pas à Paris. Et ça fait encore plus longtemps que j'avais pas pensé à eux.
Mais dans de quel personnage je te parle ?
Eh ben justement, Job, c'est pas le sujet, on s'en fout. Là, je te parle de sa femme, de Liesle. Je sais pas si tu t'en souviens. Elle, comme Michel, elle enregistre le monde pour chercher à choper les sons de son époque. Un petit moment de nostalgie. Ça dit quelque chose ?
Oui.
Et là, je sais pas si tu t'en souviens, elle voyage comme ça, elle enregistre Hitler qui arrive au pouvoir, elle bouge un moment en Afrique, enfin, elle est là et elle traverse. Tout ça pour le grand film. Bon, là, c'est Pénac, on s'en fout, on parle de Michel. Michel, il va pas parcourir le monde. Il va se concentrer sur ce qu'il voit, ce qu'il sent, puis il va faire une sélection. L'histoire commence avec une entreprise qui exploite des travailleurs sans papier. C'est le gros sujet. Pour pouvoir tenir, enregistrer, le diffuser, il va galérer. Il va tellement galérer qu'il va se retrouver à refaire des boulots à la con en intérim. Genre de truc qui t'épuise toute la journée pour quelques euros. Puis tu rentres chez toi, lessivé, complètement mort. Puis sans énergie, tu t'achètes une pizza en plastique, tu la manges devant la télé pour t'endormir.
J'adore comme dans Michel, par exemple, même dans les cadres de travail intérimaire, donc il se retrouve avec d'autres pauvres gens à bosser. Mais ces gens-là, vu qu'ils ne sont pas intérimaires, il est traité comme de la merde. Je trouve que on voit tous ces chaînes de pouvoir partout.
Ouais, mais ouais. Il n'en fait pas une émission. Ça, j'y ai pensé aussi. Il ne souhaite pas les enregistrer.
Et plus je l'aime bien parce qu'il s'énerve. Il peut s'énerver comme ça. Ah, et ouais, là, il y va. Il y va direct.
Ouais, voilà. Ouais, c'est sûr. Mais il n'en fait pas d'émission, je reviens là-dessus. Hein. Lui, ce qui l'intéressait au début, c'était vraiment les personnes qui étaient exploitées. Et puis la question de l'intérimaire, la question des salariés, je ne sais pas, il délaisse un peu cette question. Il va aller en manif, mais il délaisse cette question. Il va vivre les grandes manifs, ça je veux vraiment terminer là-dessus, c'est important. Il va enregistrer, il va se prendre le gaz dans la gueule, il va protéger son tête avec un casque de vélo, il va se faire tabasser, pas défoncer, pas éborgné, non. Il fait juste partie de la marée des inconnus présents lors de ces manifestations, se prenant les violences des CRS et de la BAC, en pleine tronche et dans les côtes. Ça glace car je pense qu'on l'a vécu, tous à cette table et peut-être les gens qui nous écoutent. Nous avons eu peur, nous aussi. Et il va faire des rencontres, il va apprendre des trucs.
Mais après,
tenter de se faire une opinion sur les manifs.
Très touchant,
j'ai pas terminé, Camilla.
Pardon.
Tenter de se faire une opinion sur les
manifs.
Non,
mais je voulais revenir sur
et
ça.
Finalement. et finalement, chercher comment faire pour se dépatouiller dans tout ça. Et je l'ai pas dit, mais Michel, c'est pas un 68-art. Ses parents ne sont pas d'affreux gauchos, ils ne sont pas vraiment croire dans les partis politiques, et bien que les syndicats soient mentionnés, ils ne s'attardent pas dessus. Michel ne veut pas tout changer, il veut tout changer, mais il n'a pas la force de réaliser ce changement tout seul. Alors au lieu d'attendre passivement que ce monde se transforme, il décide de l'enregistrer.
Another affair, and you've seen the hand of
Notre deuxième morceau de la soirée, Cool Hide du groupe Chimia.
Strip sismique.
Oh, encore une émission sur la bande dessinée.
Michel est de retour. Et Julia, toi, tu en pensais quoi ?
Mais moi, je crois que peut-être si on peut résumer ce qui vous a plu et ce que je pense que ce qui m'a touché aussi, c'est le côté un peu foireux de Michel, en fait. C'est-à-dire que il est bon, bah c'est quand même un mec hyper sympathique et plutôt de gauche. Enfin, on peut s'identifier, mais on s'identifie surtout parce qu'en fait, il est plein de compromissions comme nous tous et toutes. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, et puis en fait, dès qu'on ce avec quoi on se lave, ce qu'on commence à bouffer, etc. En fait, c'est toute une chaîne de compromissions politiques. Et lui, il a envie de bien faire, mais il est obligé. Et il y a des scènes très justes aussi où il va venir un truc poétique auquel sa copine l'emmène. Et puis c'est un petit peu un peu contemporain, mais ça dénonce le capitalisme. Et en fait, il va éclater de rire. Et puis en fait, il a ce côté humain aussi où il veut bien faire, mais il est un peu gauche, voilà. Et ce que j'ai vachement apprécié aussi, c'est que c'est vrai que, comme toi, Camilla, le style ça fait un peu y a un petit côté pas fluide glacial, mais c'est ce dessin un peu de croquis, un peu humoristique classique, quoi. Et en fait, plus on la lit, plus on se rend compte que les plans, ils sont très choisis. Donc en fait, c'est quand même beaucoup moins un peu comme le personnage, quoi. Il est beaucoup moins foireux que ce qu'on croirait, en fait. Et en plus, on se rend compte qu'il y a une vraie histoire et une cohérence. Il y a des personnages qui reviennent, qui sont approfondis. Je pense à l'homme de la rue qui m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment un personnage extrêmement touchant.
Excellent, lui.
Voilà, et donc c'est pas seulement un recueil de blagues, il y a vraiment toute une narration qui s'installe de plus en plus, et jusqu'à la scène finale que je trouvais très très bien.
C'est absolument pas un recueil de blagues.
Non, mais c'est très drôle.
Au début, on peut penser que c'est un recueil de blagues. On l'a lu avec Julia en même temps, et on a un truc en fait où c'est une planche, une blague, l'histoire du dentiste et tout, et puis après ça va beaucoup plus loin.
Oui, moi j'ai pas du tout eu cette sensation, mais bon, oui.
De toute façon, c'est une sensation qui s'estompe très vite, hein, parce qu'effectivement, il y a une vraie narration. Donc voilà, moi aussi, j'ai vraiment adoré cette BD hyper marrante. Et tu voulais rajouter un truc à ce que disait Pierre-Paul, non ?
Oui, non, mais je pense que tu as tout dit. Merci, Julia.
Il y a juste un tout petit point, c'est que si Michel avait deux LE, si Michel avait été une femme, parce que là, on voit quand même la vie d'un homme blanc de 40 ans, un peu grassouillé, et qui vit quelques problématiques, mais si justement c'était une femme blanche de 40 ans, qui vit en province, je crois que c'est Toulouse, un truc comme ça, ça aurait été aussi intéressant de voir comment cette personne vit.
Bon. Cette BD à encore écrire, Pierre-Paul.
Ah, j'espère peut-être bien, que j'espère tu peux bien. T'y mettre. Il faudra lui proposer.
Attends, et vous avez lu le tome 4 ?
Mais non, le tome 3 vient de sortir.
Mais non, Michel Carton, le tome 4.
Ah ouais, notre Michel. Notre troisième morceau de la soirée, $50 du groupe Chimia.
Depuis mardi dernier, jour de notre enregistrement pour Strip Sismique, les choses ont changé. Nous sommes confinés. Dans ces temps difficiles, c'était pas compliqué de trouver quelqu'un chez lui. Nous avons donc décidé de contacter et interviewer Lisa Mandel. Écoutez. Nous avons pu joindre Lisa Mandel. Aujourd'hui, donc, on enregistre, nous sommes le 19 mars. Nous sommes à Paris et Lisa Mandel est en train de nous parler sur Skype. Le son ne va pas être top top, mais c'est pas grave. Julia, on t'écoute.
Alors, Lisa Mandel, vous êtes autrice de bande dessinée. Vous avez commencé votre carrière dans la presse BD jeunesse avec Nini Patalou dans Tcho en 2003 et Eddie Milveux et sa blatte magique dans Capsule Cosmique en 2004. Vous avez poursuivi avec des projets comme Livre comme un poney sauvage, Esthétique et filature et HP, une BD que j'ai personnellement adorée et qui m'a permis de découvrir. Vous avez également dirigé une collection de BD en collaboration avec des sociologues qui s'appelle Sociorama. Et vous êtes aussi super-héroïne à temps partiel pour les services secrets francophones sous le nom de Super Rainbow. Enfin, cette année, vous suivez une année exemplaire. Donc, je vais vous laisser décrire un peu ça, mais en gros, vous ne buvez plus d'alcool, vous mangez bien, vous faites du sport, vous regardez des films d'auteur plutôt que binge-watcher des séries. Et vous proposez une page par jour sur votre blog pour décrire comment ça se passe.
Alors, oui. Donc, effectivement, là, depuis maintenant 273 jours, j'essaye de faire une année exemplaire. Alors, autant dire que tous mes objectifs n'ont pas réussi à être atteints, puisque, en gros, ce qui reste, là, c'est que j'ai effectivement arrêté de boire de l'alcool. Ça, j'ai tenu, je tiens bon. J'ai arrêté de fumer. Je fumais que quand je buvais, donc ça a simplifié les choses. Et je m'astreins à faire une page par jour, ce qui est quand même assez difficile. Sachant qu'à un moment donné de mon périple, j'ai dû demander à l'aide parce que en fait, ça devenait vraiment difficile pour moi de publier chaque jour. Donc en fait, maintenant, une fois tous les 5-6 jours, il y a un invité exemplaire qui fait une page sur les réseaux sociaux à ma place. Et a priori, cette personne sera, toutes ces personnes-là seront dans le livre parce que j'assume le fait que j'ai dû, j'aurais pas pu faire ce projet toute seule et j'aurais pas pu le faire 27 jours sur 7 et 24 heures sur 24 parce qu'il y a des moments dans la vie où on peut pas en fait tout simplement produire comme on voudrait. Donc ça m'a sauvée, mais bon, en tout cas, chaque jour il y a eu une page et je pense que le plus gros défi c'était ça. Après, pour ce qui est du sport et de. Et des séries, j'avoue que j'ai pas toujours, j'ai pas ultra bien réussi mon pari, mais en même temps, c'était aussi se rendre compte que les addictions sont là aussi pour quelque chose, que souvent c'est une solution et pas un problème en fait, et que du coup, ça force à réfléchir sur soi-même, à réfléchir à ce qu'on a envie de faire de sa vie. Donc voilà, ça m'a amené à des questions que je m'étais en fait pas tant posées que ça. Et que je suis obligée de me poser maintenant. Bon, après, on est souvent aussi rattrapé par la grande histoire. Donc là, par exemple, j'aurais jamais pensé que je me retrouverais enfermée à la maison avec le coronavirus quand j'ai commencé ce challenge. Donc en fait, je suis partie de quelque chose en fait, qui était plutôt extrêmement auto-centrée et que j'assumais complètement. Mais en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui se disaient « mais elle va pas tenir à parler que de soi, puis que de « ah, j'ai fait la gym, ah, j'ai mangé ça, ah, j'ai pas bu », il va y avoir une limite. Mais en fait, rapidement, en fait, au-delà de mon propre parcours, j'ai raconté en fait, ce qui m'arrivait, ce que je traversais. En fait, j'ai quand même une vie où il se passe des choses, malgré le fait que je sois autrice de BD. Finalement, on voyage pas mal, je fais beaucoup de BD reportages. Et puis voilà, il se passe des choses dans la vie, et finalement, c'est plus une chronique de la vie quotidienne sur un an avec des objectifs... voilà, qui ne sont pas tous remplis, mais je pense que l'essentiel y est. Voilà, et que je continue là jusqu'à la mi-juin à peu près. Et ensuite, je m'auto-éditerai.
Super.
Et oui, c'est Lisa, ça aurait pu être... Pardon, Camilla.
Oui, je voulais vous demander. Vas-y.
Mais en fait, ce n'est pas du tout le propos de la BD. C'est super drôle. Et puis, c'est pas la question d'arrêter toutes les addictions du tout qui est finalement centrale dans ce que vous faites maintenant.
Non, en fait, ça a été en fait assez rapidement. Moi, j'ai eu un problème En fait, j'ai fait un burn-out à un moment donné pour aussi plein de raisons qui ne sont pas forcément liées au fait d'avoir autant de contraintes. Mais quand même, l'accumulation des contraintes et des restrictions m'a rendu à un moment donné extrêmement malade, enfin extrêmement malade psychiquement, on va dire. Et ça, je veux dire, je pèse mes mots, hein, c'est pas une exagération. C'est-à-dire que je me suis mise à faire des espèces de crises d'angoisse, d'attaques de panique que j'avais jamais fait avant. Après, c'est pas forcément lié que au fait que je me sois du coup empêchée toute soupape de sécurité, mais je pense que le fait d'en avoir plus aucune, de ne plus pouvoir compenser d'une part, en fait, ça m'a vraiment poussé jusqu'à la limite de ce qu'on pouvait s'obliger à faire, à quel moment la bientraitance devient de la maltraitance. Mais effectivement, du coup, en fait, on sort de soi. En fait, moi, mon véritable objectif, quand j'ai fait les pages, je m'en suis rendu compte au cours du livre, c'était quand même de faire des pages qui soient agréables à lire pour un lecteur, pour une lectrice. Et donc, s'il fallait pour ça sacrifier mon espèce d'orthorexie imposée, je la sacrifiais. C'est-à-dire que pour moi, l'échec, ça aurait été de se retrouver avec une année insipide et complètement tournée vers soi-même. C'est tout le contraire de ce pourquoi je fais mon métier. C'est-à-dire, moi, je fais un métier parce que j'aime raconter des histoires, j'aime les partager avec les autres, j'aime faire rire les gens, j'aime l'autodérision, j'aime l'humour. Je veux dire, ça aurait été un échec personnel si j'étais restée dans les clous, j'aurais fait un livre raté, je pense. En fait, rater mon challenge, finalement, c'est réussir mon challenge.
Et tout à l'heure, Lisa, vous étiez en train de parler donc de la situation actuelle. Vous êtes confinée, oui, comme tous les Français, comme une partie des, oui, Européens. Est-ce que, oui, comment vivez-vous ces confinements? Donc, vous êtes rentrée depuis quelques jours du Niger, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc,
quand j'étais au Niger, en fait, bon, il m'est arrivé deux choses. C'est que d'une, je n'ai pas pris de traitement contre le paludisme parce que quelqu'un du Haut Commissariat réfugié m'a dit que ce n'était pas la peine. Et une fois là-bas, en fait, on m'a fait vachement peur en me disant « mais vous auriez dû prendre un traitement, parce que c'était trop tard, parce qu'il aurait fallu prendre en amont ». Plus la personne qui est en charge de ce Haut Commissariat est italienne, et en fait, elle a réussi à… Moi qui étais partie sans minimiser la gravité de la situation et des hôpitaux bondés, mais j'étais arrivée quand même assez insouciante. Il faut dire que les choses ont changé très vite en France. Quand je suis revenue en France, d'abord, j'ai failli ne pas pouvoir revenir puisque les vols étaient suspendus avec… Moi, j'étais avec Turkish Airlines qui commençait à interdire aux Français de pénétrer sur son aéroport. Donc, en fait, on a réussi à nous trouver un billet direct de Air France. Mais j'ai vu le moment où je n'allais pas pouvoir rentrer, donc ça m'a vraiment inquiétée. Et une fois arrivée en France, moi, j'ai posé mon pied sur le sol français en décidant de me confiner avant même l'annonce du gouvernement parce que j'ai eu quand même une prise de conscience… au Niger, de la gravité potentielle de pas s'isoler. Donc, en fait, moi, depuis dimanche, je suis enfermée à la maison. En plus, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un peu le rhume, mais c'est un vieux rhume que je traîne depuis avant de partir, avant le coronavirus, mais que, par prudence, je préfère ne pas aller disperser aux 80. Donc, voilà, j'ai décidé de faire la bonne citoyenne, je reste à la maison. L'effet, il est assez sidérant, en fait, on est tous un peu sidérés. Je pense que, d'abord, on n'a jamais vécu ça dans notre histoire. Moi, je suis quelqu'un qui vient de France, d'un pays en paix. Mes parents n'ont pas connu la guerre, je n'ai pas connu la guerre. Il y a eu Tchernobyl, mais enfin, on n'avait pas été confinés non plus. Donc, pour moi, c'est complètement nouveau, un pays qui est à l'arrêt. Ensuite, on a un peu du mal à réfléchir, je trouve. Ensuite, moi, je vis avec quelqu'un qui est libanais, donc mon amie libanaise, et elle a connu la guerre jusqu'à 13 ans. Elle vivait la guerre civile à Beyrouth, donc pour elle, c'est marrant parce qu'elle, elle a l'habitude, ça la choque aussi, mais elle est plus habituée à des moments de confinement où on ne peut pas sortir. Mais c'est vrai que, aussi, ce qui est extraordinaire, et c'est ce qu'en fait, je pense que je vais en parler dans la page d'aujourd'hui, c'est que c'est le cas pour tout le monde. En fait, ce qui est étrange dans la situation qu'on vit, c'est qu'elle est mondiale. Aujourd'hui, quand vous regardez Instagram, toutes les BD parlent de confinement, qu'on soit en Australie, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Corée, les gens parlent de leur confinement. Et ça, c'est une première, parce que d'habitude, on vit une situation dans un pays et le reste du monde, en fait, continue de vivre. Là, on a l'impression que c'est quasiment toute la planète qui s'est arrêtée de tourner, quoi. Il y a quelque chose à la fois, je pense… moi, j'ai décidé de faire confiance à mon gouvernement et de suivre les consignes. Après, on voit bien que dans les faits, c'est pas la peste bubonique, c'est pas Ebola non plus. Et on se rend compte qu'en fait, une grippe, c'est pas une grippe, c'est un coronavirus, mais qu'en fait, un virus qui est quand même globalement pas non plus extrêmement létale, peut complètement désorganiser une société entière. C'est ça qui est très inquiétant. Parce que qu'est-ce qui va arriver si demain, il y a un vrai virus qui est vraiment extrêmement compliqué à gérer? Ça nous met en face, je trouve, d'une énorme faille du système capitaliste, quoi, qui repose tellement sur la consommation qu'en fait, si on ne consomme plus, toute la société s'effondre. C'est quand même fou, quoi.
Oui, si il y a le fait que en fait, le foyer épidémique s'est très vite transposé à l'Europe alors qu'il était en Chine, parce qu'il y a tellement d'échanges, parce que ça va très très vite en fait.
Oui.
Lisa, et à propos de ça, on sait, grâce à votre bande dessinée quotidienne, que vous passez pas mal de temps chez vous, en temps normal. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner aux Français pour bien vivre leur confinement?
Alors, il faut savoir que moi, en fait, quand je me dessine, je suis jamais chez moi. Moi, en fait, j'ai un atelier. Je partage un atelier avec 10 personnes parce que, en fait, je déteste travailler à la maison. Parce qu'en fait, autant... D'abord, je suis très mal organisée, mais bon, ça fait 20 ans que je travaille très mal organisée, puis je suis arrivée jusqu'à vous, donc c'est que dans ma désorganisation, il y a quand même un peu d'organisation. Donc par contre, gérer mon emploi du temps, je l'ai toujours fait, j'ai jamais été salariée, mais travailler chez soi, moi, c'est quelque chose que je supporte pas, parce qu'en fait, je clochardise très vite. Là, vous voyez pas, mais en fait, je suis en pyjama. Donc en fait, je deviens un loukou. Quoi. C'est-à-dire que j'arrive plus à me lever, ça me déprime en fait. Donc moi, je suis la première à savoir que je déteste le télétravail et j'évite un maximum de le faire. Là, je suis obligée, là ça fait pour moi donc un peu plus longtemps que les autres Français, mais ça fait 4 jours, j'ai l'impression que ça fait 6 mois déjà. Donc je suis en train d'essayer de trouver des solutions. Alors je cherche des carrés de soleil dans la maison pour prendre de la vitamine D, enfin je fais comme tout le monde quoi. Mais sachez que moi, j'ai horreur de ça. Je trouve ça affreux, le télétravail. Et je trouve ça affreux de vivre et de travailler dans le même endroit. Donc, mais je sais le faire. J'ai déjà travaillé à la maison. Ça m'arrive régulièrement de devoir le faire quand je suis en déplacement. Donc, je sais le faire. Après, ce n'est pas mon grand plaisir, quoi. Moi, j'aime... faut savoir que je dois être la plus fonctionnaire des freelances. Moi, je me lève le matin, je vais au boulot, je rentre jamais après 19h, je ne travaille jamais le week-end. Alors, on peut me supplier, ça a créé beaucoup de disputes avec des gens parce que je disais, ah non, mais moi, je bosse pas le samedi, je bosse pas le dimanche. Et si les gens disent, mais non, mais bosse pas vendredi, puis tu bosses samedi, je dis, bah non, 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 non. Donc voilà, j'ai quand même... En fait, je suis très calquée sur la vie des salariés, sauf que, ben, contrairement aux salariés, moi, j'ai aucune vacances. Voilà, la différence entre moi et les autres, et puis pas mes 5 semaines, et que nous on n'a pas de congé payé de toute façon. Donc en gros, j'ai des horaires assez light, mais je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça va pas changer ici à la maison. Mais j'ai pas de conseils malheureusement à donner. Je suis pas la bonne personne parce que toutes les fois où je travaille à la maison, ça a été vraiment la déprime au bout d'un moment. Moi j'aime bien sortir, j'aime bien voir du monde. Sans parler de forcément sortir le soir et tout, mais au moins la journée, ouais. Rencontrer des gens. Après, il y a un côté agréable aussi dans l'isolement si on n'est pas tout seul, quoi.
Ouais, c'est plus facile. Est-ce que c'est plus dur de suivre votre année exemplaire malgré tout en étant donc enfermé?
Ah non, j'arrive pas du tout parce qu'en fait, avec le confinement, mais il faut voir les animaux en captivité, ils grossissent, quoi. Enfin, moi, avec le confinement, qu'est-ce qu'il nous reste comme joie? Il nous reste regarder des séries ou manger. Je veux dire, il n'y a pas faire du sport. Alors, mon amie, là, Elena, elle arrive à faire du yoga tous les jours, mais moi, en fait, si je ne suis pas obligée, je ne fais pas de sport, si je suis pas... Donc mon année exemplaire, si, je ne bois pas d'alcool. Alors, non, par contre, j'ai 3 choses que je n'ai pas lâchées, c'est de l'alcool, la cigarette et de faire ma page. Ça, pour faire ma page, c'est beaucoup plus facile, parce que du coup, le monde étant à l'arrêt, j'ai plus un peu... Enfin, j'ai d'autres trucs, mais globalement, c'est quand même ma seule contrainte réelle, c'est de faire cette page. Donc, voilà, et après, pas boire, pas fumer... Bon, voilà. Mais le reste, faire du sport dans la maison, moi j'y arrive pas. En fait, j'ai besoin d'être dans un truc social pour faire du sport. J'ai un peu du mal à m'auto. Si j'ai fait cette année exemplaire, c'est parce que je suis bien incapable de m'auto-discipliner. Sinon, je l'aurais pas faite. Et au départ, je me suis dit, tiens, comme ça va m'obliger. Donc, dans une certaine mesure, ça a marché. Par exemple, j'ai vraiment produit. Je vais réussir à produire un bouquin qui va faire presque dans les 400 pages, ce qui est pas mal. Mais. Non, on ne peut pas dire que ma vie soit extrêmement... En tout cas, alimentairement parlant et visuellement parlant, on ne peut pas dire que je sois dans une grande réussite. Après, je suis limitée par mes maux de tête, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de jouer à des jeux vidéo et de regarder la télé, j'ai mal à la tête. Donc, on va dire que c'est les limites que mon corps m'impose qui vont faire que je m'arrête. Et je ne me couche pas tard, voilà. On va dire une troisième... J'arrive à me coucher vers 11h, à minuit, et à me réveiller vers 7-8h. Ça, c'est le... pas peu. Je suis pas décalée au niveau du soleil, on va dire. Voilà.
Et justement, pour revenir à l'ouvrage final du plug, ça va faire un ouvrage de 365 pages, j'imagine, plus ou moins. Et comment... C'est autoproduit, donc, vous disiez. Et comment vous allez...
Julia, pardon, on n'a pas entendu la question. Est-ce que tu peux la répéter? Au moins, moi, je ne l'ai pas entendue, donc ce n'est pas enregistré.
Ok. Non, je demandais, puisque le livre final issu du blog Une année exemplaire va être autoproduit et qui va faire en gros 350-400 pages, comment vous allez le diffuser? Ça va être assez un gros dispositif, quoi.
Alors, j'ai fait un financement participatif en début de projet, donc il m'a ramené 16 000 euros, donc on va dire 14 800 euros une fois qu'on a enlevé les taxes du crowdfunding du site. De cet argent-là, en fait, il y a 9 000 euros à peu près, 10 000 euros qui vont partir pour la production. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis quand même, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, donc j'ai un peu des contacts avec des gens qui s'y connaissent. Donc, le dispositif ne peut pas être forcément gros. Moi, j'ai trouvé un imprimeur qui peut imprimer à un prix correct par rapport à la quantité de pages et au fait que je ne veux pas que le livre soit trop épais pour espérer qu'il passe en tarif lettre. Après, c'est comment on fait son livre pour qu'il soit le moins cher possible à distribuer. Donc, ça, c'est un peu le casse-tête dans lequel je suis en ce moment. Par le crowdfunding, j'ai eu quand même 500 commandes, donc des gens qui ont déjà commandé le livre et en cours de route, là, il y a quelques semaines, j'ai lancé un site où je propose mon livre à la pré-vente encore. Donc là, j'ai pu récolter encore quelques personnes, récolter encore quelques euros qui vont me permettre, j'espère, de pouvoir payer à l'impression. Et donc, au final, moi, je vais l'imprimer à 1 500 exemplaires pour avoir un peu de marge. Et puis, les frais de port sont quand même vachement élevés par la poste. Le livre est quand même un gros pavé. Donc, je pense pas avoir une marge énorme. Ah, excusez-moi, c'est le coronavirus, là. Je vais devoir... Voilà. La marge va pas être forcément énorme. Mais, en fait, moi, ce qui m'a intéressé depuis le début, c'était de suivre la chaîne du livre du zéro, enfin, de zéro, quoi. Parce que, ça fait des années que je travaille avec des éditeurs et que j'ai toujours eu quand même ça en tête de me dire j'aimerais bien suivre le livre pour voir aussi le travail que fournit l'éditeur, le travail que fournit le libraire, le travail que fournit le distributeur, savoir, parce que tout ça c'est vrai que c'est du travail. Moi aujourd'hui mon travail ne se limite pas à faire ma page et après à aller me promener, quoi. Je suis obligée de penser à tout, à toutes les choses qui sont à côté, sachant que forcément les droits d'auteur sont quand même beaucoup plus élevés quand on s'auto-produit. Et je voulais voir qu'est-ce que ça allait faire au final, sachant que je suis aussi sur d'autres projets avec des éditeurs dans le même temps. Donc encore une fois, c'est pas genre un espèce de claquage de porte, pas du tout. Moi je travaille main dans la main avec aujourd'hui plusieurs maisons d'édition, mais j'avais envie, voilà, l'espace d'un livre. Et aussi il faut dire que c'était un peu un coup de tête. Il s'est trouvé que j'étais entre deux contrats, un contrat que je devais signer n'était pas signé et je commençais à être un peu dans les ennuis financiers. Je me suis dit il faut que je trouve une solution et d'un coup, sans réfléchir, j'ai dit allez, je un appel de fonds et je fais un livre. Et je dois dire que j'ai réfléchi dans un deuxième temps, une fois que j'ai signé l'autre contrat, je me suis dit mais comment je vais faire. Ça a été un peu ça faisait très longtemps que ça mûrissait dans ma tête, mais la décision elle a été faite assez rapidement, voilà, prise assez rapidement. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant d'être, en fait c'est très motivant de faire un truc tout seul. Je me rends compte qu'il y a aussi quelque chose de très motivant de tenir, on est responsable de tout, de ses échecs, de ses réussites. On ne peut pas blâmer quelqu'un si ça ne marche pas. Là, je sais que mes échecs et mes réussites ne seront dus qu'à moi-même. Et c'est à la fois enthousiasmant et à la fois flippant parce que effectivement, c'est un métier de vendre un livre. Je veux dire, moi, je n'ai pas fait une école de commerce. Donc, c'est la discussion avec les gens que je connais, avec les petits éditeurs qui ont pu me donner un coup de main sur me conseiller des gens. De toute façon, pas un travail qu'on fait seul. Et en fait, on s'auto-édite, mais finalement, on demande quand même beaucoup de solidarité de la part de tout le monde. Donc le livre, pour moi, il a été fait par tous les gens qui l'ont acheté en avance, il a été fait par tous ces amis qui ont accepté de me donner leurs bonnes adresses, par tous les gens qui m'ont donné des conseils. C'est en aucun cas un livre que j'ai fait seul dans une grotte. Et tous les gens qui m'ont pu me relayer une fois de temps en temps quand moi, je n'arrivais plus à l'assumer. Donc, s'il y a bien une leçon à tirer de cette aventure, c'est qu'on ne peut pas, on peut pas faire un livre tout seul, quoi. Ça, c'est évident.
Julia, je te laisse poser la dernière question parce qu'il nous reste seulement 5 minutes.
Oui, alors, donc j'avais une question, parce qu'on s'était croisés il y a quelques semaines à l'EHESS pour une intervention que vous aviez faite avec la sociologue Julie Pagis à propos de votre marche papier présidentiel. Ouais. Et j'ai trouvé que votre vision de l'écriture à quatre mains était super intéressante, et notamment le fait de ne pas faire précéder une enquête de terrain ethnographique avant l'écriture, vraiment, ou avant le dessin, comme dans un peu cette séparation théorie, application pratique ou esthétique, mais de voilà, un peu souter, mélanger les rôles entre ethnographe et dessinatrice. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous raconter un petit peu comment ça s'était passé, justement, ce type d'enquête, tu en as fait plusieurs.
Bah, alors, en fait, bon, moi, j'ai quand même, avec la sociologue Yasmine Bouaga, on a quand même dirigé une douzaine d'ouvrages où c'était des auteurs de BD qui adaptaient des enquêtes préexistantes. Et moi, j'en ai d'ailleurs illustré une, enfin, j'en ai adapté une, plus qu'illustré. Et puis, dans un deuxième temps, c'est vrai qu'on a créé la collection Terrain, où là, c'était directement en direct avec un sociologue, on allait sur le terrain avec lui. Et c'est vrai que pour moi, il n'y a pas photo, je trouve qu'on tire le meilleur des deux experts quand on les fait intervenir ensemble sur un terrain, parce que l'auteur de BD, en fait, a un œil que n'a pas le sociologue, qui lui aussi a un œil que n'a pas l'auteur de BD. En fait, je trouve qu'on arrive à une vision beaucoup plus large. En fait, ça enrichit énormément la vision d'avoir ces deux personnes qui ont pas la même, à la fois pas la même façon de voir les choses et à la fois tout à fait la même. Moi, avec Yasmine, je sais, avec Julie, c'était pareil. En fait, on voit les mêmes choses. Sauf que le sociologue, il a la capacité de faire une analyse, de dire, tiens, dans tout ce qu'on a vu, c'est ça qu'il faut retirer, c'est de ça qu'il faut parler et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et le dessinateur, lui, par contre, à l'arrière-plan du sociologue, il va dire, là, il y a telle personne qui a eu cette attitude, il y a cette petite phrase, il y a eu cette lumière, il y a eu cette scène qui s'est passée en arrière-plan, il y a eu cette ambiance. Et elle est importante. Et en fait, les deux ensemble, du coup, on se retrouve avec un récit qui à la fois a du corps, a du contenu et a de la légitimité, et à la fois qui a du cœur. Voilà. Et en fait, ce que disait d'ailleurs, c'était Peters qui était aussi invité, il disait, ça, en fait, l'auteur de BD est là pour incarner le récit. Sinon, parce que le sociologue, évidemment, quand il est dans l'enquête, il est dans l'incarnation. Mais une fois qu'il écrit, quelque part, il perd un peu de cette fraîcheur parce que c'est pas ce qu'on lui demande de faire. On lui demande de poser des résultats et de poser des analyses et pas du tout de poser des émotions. Alors que le sociologue, au départ, ce qu'il aime, lui, enfin moi, tous les sociologues avec qui j'ai discuté, en fait, ce qu'ils aiment, c'est le terrain. Ce qu'ils aiment, c'est rencontrer des gens. Ce qu'ils aiment, c'est comprendre des situations. Ce qu'ils aiment, c'est comprendre le monde qui les entoure. Et en fait, l'auteur de BD lui permet de quelque part, de faire ressortir cette facette-là de son travail, qui est parfois sous-exploité de par la demande, quoi. Donc, et si on sépare les deux, c'est-à-dire que si le dessinateur ne se retrouve que l'illustrateur du sociologue, ben je trouve qu'on a une pauvreté qui s'installe. Vraiment, on s'appauvrit, en fait. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, la collection, elle va un peu muter. Les prochains opus vont être que des enquêtes de terrain, en fait. Soit réalisées par un sociologue et un auteur de BD, soit réalisées par un auteur de BD tout seul, soit réalisées par un journaliste et un auteur de BD. C'est-à-dire que l'expertise ne sera pas forcément que celle des sociologues. Il peut y avoir peut-être d'autres corps de métier. On a ouvert parce que voilà, l'intérêt étant partagé. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis personnellement convaincue, que c'est dommage de traiter l'auteur de BD comme un illustrateur. Il est tout sauf ça. L'auteur de BD, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Donc il faut lui laisser la parole, et donc pour qu'il ait la parole, il faut qu'il ait les mêmes données que le sociologue pour pouvoir s'exprimer. Si le sociologue, c'est celui qui a le savoir et qui transmet ce qu'il veut à l'auteur de BD, l'auteur de BD il n'est pas libre. Pour que ce soit vraiment une relation de partenariat, il faut que l'information, les deux en aient... les deux la possèdent, et après il y en a un qui a plus la connaissance et l'autre qui a peut-être plus le moyen de... qui a plus l'expertise graphique, on va dire, et l'autre qui a plus l'expertise scientifique. Mais ça fait vraiment des belles choses.
Merci beaucoup Lisa, malheureusement notre temps est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bon confinement à vous.
Bah oui, vous aussi, vous êtes où là? Du coup, vous êtes aussi confinés?
Oui, on est à Paris.
Cette émission a été
préparée par Julia Legrand, Nandi Di Calvo, et présentée par Camilla Pizzichillo et réalisée par Pierre-Paul Sens. À très bientôt sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée.